Le Club de Tamani.
Le Club de Tamani.
Votre émission de tous les vendredis soirs sur Studio Tamani.
La culture.
Le sport.
La musique.
Les infos.
L'émission qui vous informe, cultive et divertit.
Le Club de Tamani.
Tous les vendredis à 18h15.
L'art sous toutes ses formes, les traditions dans toute leur splendeur. C'est tout cela et bien plus que nous vous proposons chaque vendredi dans votre émission culture, Le Club de Tamani. Nous vous invitons à travers cette émission à explorer et comprendre la culture malienne. Un adage de chez nous dit ceci, quand on sait d'où l'on vient, le choix de la destination ne saurait aucunement nous poser problème. Comme pour dire qu'il faut apprendre à se connaître, à connaître ses origines pour ne pas perdre ses repères. Perdre ses repères reviendrait à se retrouver dans des pratiques qui mettraient justement à mal l'harmonie et l'entente qui ont toujours caractérisé notre société. Nous savons également que le Mali est un pays de tradition orale. La transmission des valeurs culturelles se fait essentiellement au sein de la famille, puis de la société à travers des regroupements. Il faut cependant reconnaître que la situation sécuritaire du pays depuis plus d'une décennie maintenant ne favorise pas ce processus de transmission. Nous en parlons ce soir avec Dr Bakabini Keita. Il nous dira c'est quoi une valeur culturelle et dans quelle mesure l'insécurité joue négativement sur la transmission des valeurs ancestrales au Mali. Le Club de Tamani, c'est aussi des rubriques riches et variées pour ajouter une note de couleur à votre fin de semaine. Pour la présentation, Lala Diarra Touré et Aissata Diarra, mise en onde Ibrahim Sanogo. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Bonsoir Aïcha, comment vas-tu? Tu es toute belle là, c'est quoi le projet?
Bonsoir Lala, tu sais souvent il faut se mettre sous son 31 pour effrayer la galère.
Mais Djolo, tu as raison, galère, tu auras été prévenue.
Ouais.
Et si on se laissait maintenant emporter par la magie des belles mélodies maliennes?
Excellente idée Lala, et je sais que les auditeurs sont d'ores et déjà impatients de découvrir la playlist du jour.
Alors pour la première sélection musicale Aïcha, nous allons écouter ensemble Amadou et Mariam dans On veut la paix.
Thank you.
Les couples emblématiques Amadou et Mariam, dont les chansons ont bercé notre enfance, Lala, hélas la grande faucheuse, les a séparés.
Une icône de la musique, pas que malienne, mais mondiale, qui s'est éteinte à tout jamais. Amadou, malgré son handicap, formé avec sa femme Mariam, elle aussi handicapée visuelle, l'un des couples d'artistes les plus célèbres au monde. Il s'en est malheureusement allé le vendredi dernier, 4 avril 2025. Que son âme repose en paix, on l'a toujours dit, les artistes continueront à vivre à travers leurs œuvres.
Amen Lala, nous allons à présent avec le résumé de l'actualité de la semaine.
La revue de la presse.
Et nous recevons ce soir Idrissa Sako qui va nous mettre au parfum de l'actualité de la semaine. Idrissa Sako, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, qu'est-ce qui est au menu de l'actualité cette semaine ?
La tension entre le Mali et l'Algérie, c'est le principal sujet traité dans les journaux cette semaine. Oui, Lala, l'abattage d'un drone de l'armée malienne a ravivé les tensions entre les autorités maliennes et algériennes. Le samedi 5 avril, le gouvernement de transition du Mali fait un communiqué dans lequel il révèle que l'Algérie était derrière la destruction du drone militaire de Fama survenu dans la nuit du 31 mars au 1er avril à Tinzawatène. Le gouvernement annonce alors qu'il va porter plainte contre l'Algérie pour agression. Ainsi, les Échos et l'Indépendant titrent dans leurs parutions respectives du lundi 7 avril « Le Mali porte plainte contre l'Algérie pour agression ». Selon les explications du gouvernement rapportées par les deux quotidiens, l'appareil est tombé à la verticale à environ 9,5 km au sud de la frontière algérienne dans le territoire malien. Un élément présenté par Bamako comme un indice qui montre qu'une action hostile était à l'origine de la chute. Le 22 septembre, barre à sa une. L'armée malienne dément toute violation de l'espace aérien algérien. Selon le journal qui cite le chef d'état-major de l'armée malienne, général Omar Diarra, l'appareil opérait dans les limites du territoire national. Une déclaration qui vient démentir donc celle des autorités algériennes qui affirmaient que le drone malien était rentré dans l'espace aérien algérien. Suite à cet acte de l'armée algérienne, l'ambassadeur d'Algérie au Mali est convoqué par les autorités maliennes. Le quotidien national L'Essor explique dans ses colonnes le mardi 8 avril que cette convocation avait pour objectif de signifier aux diplomates algériens les vives protestations et le grand mécontentement du Mali suite à cet acte inamical. Crise entre le Mali et l'Algérie. L'AES rappelle ses ambassadeurs, écrit Le Républicain. Les autres pays membres de l'AES entrent dans la danse. Le collège des chefs d'État de la Confédération AES condamne l'incident et décide de rappeler ses ambassadeurs. En réponse, Alger rejette catégoriquement les accusations portées par Bamako et l'AES. Elle décide aussi de rappeler ses ambassadeurs dans les pays de l'AES et ferme son espace aérien. Ce qui fera dire l'Indépendant dans sa parution du 8 avril qu'un nouveau palier est franchi dans les tensions entre l'Algérie et les États du Sahel. Alors que l'indicateur du renouveau dénonce le silence coupable de l'Union africaine et de l'ONU. Si l'Union africaine n'a pas encore réagi à cette crise diplomatique, la CEDEAO, quant à elle, appelle les deux voisins au dialogue, rapporte le quotidien du groupe Renouveau. Et l'Indépendant d'ajouter, alors que les réactions à l'international se font toujours attendre, la CEDEAO a réagi mercredi 9 avril à la montée des tensions entre le Mali et l'Algérie. Le quotidien Infomaté n'a pas manqué de révéler le soutien affiché aux autorités par la société civile. Celle-ci a organisé une grande manifestation devant l'ambassade d'Algérie. Quant aux Républicains, il a noté la condamnation unanime de la classe politique suite à la destruction du drone de l'armée malienne. Plusieurs partis politiques ont publié un communiqué pour condamner et afficher leur soutien au Fama.
Idrissa Sako, l'actualité de la semaine a été aussi marquée par la disparition d'Amadou Bagayoko, le binôme du duo Amadou et Mariam.
Oui, Aïcha, le chanteur musicien du célèbre couple non-voyant a tiré sa révérence vendredi 4 avril dernier à Bamako à l'âge de 70 ans. Ainsi, l'indicateur du nouveau titre, Amadou Bagayoko laisse à jamais seul Mariam, l'auteur de la chanson mythique Le dimanche à Bamako est décédé le vendredi 4 avril à Bamako. Son enterrement a eu lieu le dimanche 6 avril au quartier résidentiel Garantigibougou en commune 5 du district de Bamako. Amadou Bagayoko, le monde te pleure, un dimanche à Bamako et pense à toi. Titre à sa une du lundi 7 avril, le quotidien national L'Essor. Plus qu'un couple, Amadou et Mariam ont formé un duo musical hors pair qui a transcendé les handicaps visuels pour faire chanter les foules et les chefs d'État aux quatre coins du globe, rappelle l'essor. La mort sépare le mythique couple Amadou et Mariam, souligne le quotidien L'Indépendant. Contrairement au dimanche, jour de mariage chanté par le couple à travers la planète, celui de ce 6 avril a été un dimanche de deuil à Bamako, peut-on lire dans les colonnes de ce quotidien privé.
Merci beaucoup Idrissa Sakho pour cette page de l'actualité. Et nous te retrouverons tout à l'heure pour la version en langue nationale Bamanankan.
Enchaînons avec les coulisses de l'info.
Les coulisses de l'info.
Dans la rubrique éducation aux médias, Aïcha, nous allons parler ce soir de la notion de guerre informationnelle.
Oui, Lala, pour comprendre le concept, je propose que l'on suive ensemble cet entretien de Badjougou Danté. Il est réalisé par notre Miss High-Tech, Fatoumata Kodjo.
Il faut comprendre par guerre informationnelle l'ensemble des mécanismes mis en place par les différents pays, notamment les grandes puissances, leur permettant de donner une information à leur profit. Et ces informations s'intéressent généralement aux populations des autres pays ou à leur propre opinion. Il s'agit de faire en sorte que ce qui est donné comme information soit toujours à la faveur du pays en question. La guerre informationnelle intéresse surtout les puissances colonisatrices, les puissances impérialistes, qui agissent sur les opinions des autres pays en utilisant l'information pour les dominer. Et cette pratique consiste même souvent à s'exprimer dans la langue du pays à dominer.
Quel est l'effet de cette manipulation sur l'opinion publique?
D'abord, l'effet consiste à créer l'image d'un pays fort, puissant, nécessaire, avec une présence irréprochable, bon samaritain. Et l'objectif affiché, c'est la création surtout d'un complexe d'infériorité. Parce que, comme on l'a dit, pour dominer un peuple, pour dominer une personne, il faut amener ce peuple ou cette personne à douter de lui ou d'elle-même.
Il y a un temps encore, les médias n'étaient pas aussi développés comme on le voit aujourd'hui. Et la guerre se faisait sur les terrains. Face à cela, quelle doit être justement l'attitude de la population face à des informations véhiculées sur des chaînes internationales?
En réalité, la guerre informationnelle est aussi vieille que l'histoire des médias. Seulement aujourd'hui, les médias ont toujours joué ce rôle important pour les puissances. Mais seulement, nous sommes aujourd'hui dans un monde très ouvert où l'information s'est démocratisée avec le développement de l'Internet. Donc tout le monde est devenu pratiquement producteur et diffuseur de contenu au point que non seulement l'information est vite donnée, mais la réaction aussi à cette information est vite sentie. Sinon, on a vu des cas où des guerres ont eu lieu sans images. Et après, une mise en scène est savamment orchestrée pour expliquer ce qui a pu se passer. Mais aujourd'hui, avec un téléphone, tout le monde est à mesure de comprendre les choses et de pouvoir les dire. La réalité du terrain n'est plus un secret.
Face à cela, quel doit être le rôle des hommes de médias et sont-ils en mesure de garantir l'impartialité et la neutralité de l'information?
Aujourd'hui, il faut qu'il y ait d'abord la prise de conscience. Cette prise de conscience doit consister pour chaque Malien de comprendre, comme nous l'avons toujours dit, qu'il est un Malien avant d'être un professionnel de l'information ou un professionnel d'un autre domaine. Que nous comprenions véritablement que l'information qui doit être donnée, la meilleure façon de se donner cette information, c'est une information qui sert le pays, c'est une information qui aide le pays et c'est une information qui valorise ceux qui acceptent de donner leur vie pour protéger les autres. Les meilleurs principes, les meilleures valeurs sont des valeurs au profit du peuple, au profit du pays. Donc aujourd'hui, il est extrêmement important que les hommes des médias s'approprient cette réalité. Certes, les gens ont aujourd'hui conscience des enjeux, mais il s'agit effectivement de contribuer à positiver ce qui se fait en respectant les règles d'éthique et de déontologie. Cela est extrêmement important.
Et pour terminer, quels conseils vous pouvez donner aux populations pour qu'elles ne puissent pas tomber dans le jeu de la guerre informationnelle?
Et aujourd'hui, je crois qu'il est important que les populations aussi qui reçoivent les informations et une certaine éducation aux médias. Cette éducation aux médias consiste à savoir la différence entre une information orientée pour les besoins de la cause et une information fondée. Il y a des journalistes, des hommes de médias, étrangers d'ailleurs, qui se sont posés systématiquement comme étant spécialistes de notre pays. Et la couverture des événements de notre pays s'est faite même ailleurs. Et pourtant, ces gens qui touchent à l'actualité de notre pays, dans les moindres détails, sont installés dans les pays voisins. Ils n'osent pas, comme on le dit, mettre leur bouche dans les affaires de ces pays en question. Et rien que celui qui donne l'information, la source de l'information, doit pousser la population à comprendre que c'est des informations qui, en réalité, sont des informations orientées, qui ne doivent pas être prises en compte et qui sont faites souvent pour casser le moral des populations.
Voilà ce qu'on pouvait retenir de la guerre informationnelle. Accueillons à présent l'invité culture.
L'invité culture.
Nous avons l'honneur de recevoir sur notre plateau ce soir Dr Bakabini Keïta. Il est philosophe politique.
Comme annoncé en début d'émission Aïcha, avec lui, nous allons nous entretenir sur l'impact de l'insécurité sur la transmission des valeurs culturelles. Docteur, bonsoir et bonsoir. Merci d'avoir accepté notre sollicitation.
Je vous en prie.
Alors, d'entrée de jeu, que devons-nous comprendre par valeurs culturelles?
Valeurs culturelles, il est comme ça brutalement difficile de le définir sans passer d'abord par le terme culture. La culture, c'est l'ensemble des modes de vie qui nous identifient en tant que groupe social, ethnique, en tant que pays, nation, donc d'autres, effectivement. Et maintenant, à l'intérieur de ça, la valeur culturelle, c'est l'ensemble des croyances que nous avons et qui nous permet de nous distinguer, de nous identifier effectivement d'autres sociétés, d'autres groupes ethniques.
Alors, M. Keïta, comment se fait essentiellement la transmission des valeurs culturelles au Mali?
Je pense fondamentalement les valeurs se transmettent par deux voies. Elles peuvent se transmettre de façon naturelle, donc par le contact naturel entre les personnes, les groupes. Mais elles peuvent aussi se transmettre à l'occasion des conflits sociaux, donc l'agression d'un groupe par un autre, d'un pays par un autre. Donc évidemment, à partir de là, effectivement, il peut y avoir le groupe d'accueil, ou en tout cas le groupe chez qui se déroule le conflit, et évidemment reçoit des valeurs qui n'étaient pas sur son territoire. Et donc, il y a fondamentalement deux modes de transmission. Donc, soit les valeurs se transmettent de façon naturelle ou par la voie de la violence. Ça peut aussi se transmettre par, je disais, de façon naturelle, quand je dis la rencontre naturelle entre les groupes. Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut évoquer à partir de là. On peut peut-être passer par l'éducation, par la tradition orale, par la danse, et puis tant d'autres éléments par lesquels on peut passer pour transmettre les valeurs culturelles.
D'accord. J'aimerais bien que l'on s'apesantisse sur ce premier aspect. Vous avez dit une transmission naturelle. Donc, dès que l'homme est dans son milieu naturel, les valeurs sont transmises, mais de façon, on va dire, même inconsciente.
C'est-à-dire que ce qui caractérise fondamentalement les êtres humains, c'est que quand ils vivent ensemble, ils sont obligés d'entretenir des rapports entre eux. Et les rapports sont des rapports de projection. Et donc, il y a forcément des contacts. Mais ces contacts sont, j'ai dit naturels, parce qu'ils ne peuvent pas ne pas être. Donc, de toute façon, ils le sont de cette manière et de façon douce. D'accord. Donc, c'est pourquoi je parle de voie naturelle.
D'accord. Nous allons parler maintenant de l'insécurité. N'est-ce pas que la situation sécuritaire précaire est à l'origine de la perturbation des pratiques culturelles et des événements traditionnels?
La crise, bon, on peut dire que ça remonte depuis 2012. Hein. Et de 2012 à maintenant, on est à 8, on est à 13 ans. Donc, d'insécurité. Mmh. Et donc, de plus en plus, et moi, je ne suis pas sûr que c'est demain que les choses vont...
D'accord, mais justement, quel est l'impact de cette situation sur la transmission des valeurs culturelles?
Bon, il est clair qu'il y a des déplacements des populations et donc on perd des valeurs. Mmh. Donc il y a, puisque quand il y a l'insécurité, les gens se déplacent au moment où ils ne s'attendent pas et ils sont obligés en tout cas de laisser pas mal de choses derrière eux. Et donc, et parmi ces choses-là, ça peut être des objets culturels, ça peut être des valeurs. Donc, évidemment, si ça, ça a forcément des effets.
Et nous savons surtout aussi qu'il y a plusieurs événements qui se font, on va dire, au sein de la société, mais qui nécessitent la participation de tout un chacun. Mm-hmm. Par exemple, que ce soit les événements heureux ou même malheureux, mm-hmm. les baptêmes, les mariages, le tout se fait en fait en groupe.
Oui.
Et c'est lors justement de ces événements-là que la plupart des valeurs en fait est transmise aux générations futures, parce que vous êtes d'accord avec
ça? Oui, avec l'insécurité, c'est tous ces événements-là aussi qui sont perturbés. Les gens sont obligés, quand vous prenez les mariages, les baptêmes, quelqu'un qui est en déplacement à l'intérieur ou qui est refusé, donc vous savez très bien qu'il n'a pas le temps, les moyens de se mettre en tout cas à célébrer le baptême comme il le faut, le mariage, la circoncision, etc., etc. Donc, forcément, l'insécurité impacte la culture.
D'accord.
Et de façon négative, il faut l'ajouter. Et ce déplacement, évidemment, n'est pas sans conséquence quoi, sur les liens, sur les rapports. Donc, il y a des rapports qui se nouent de façon brutale, mais il y a des rapports aussi qui sont cassés de façon effectivement assez violente. Et donc... Quand je dis qu'il y a des rapports chez nous de façon violente, parce que vous n'êtes pas sans savoir également que ceux qui viennent, c'est des hommes, et quand ils viennent, ils imposent également des rapports sur les groupes, les populations qu'ils rencontrent, même si c'est par la force. Et de là, c'est les questions de mariage. Donc, ils peuvent obliger des femmes à se marier avec... Ils peuvent faire des enfants avec des femmes sans leur consentement. Donc, tout ça, ça crée des bouleversements. Donc, ça déforme, ça transforme les rapports sociaux. Donc, ça joue négativement sur les relations sociales.
D'accord. Merci beaucoup, Dr Baka Binikita, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes philosophe politique. Nous allons marquer une pause musicale, Aïcha.
Oui, Lala, nous allons avec un jeune artiste talentueux qui fait un mélange équilibré entre tradition et modernité. Il joue de la koura, il s'appelle Seba Kanouté.
Écoutons ensemble son titre, Qui n'aime pas ça?
Created by Prince Beat. Assalamu alaikum, jama kuma ben fe ka foye. Hermani Johnny, John de Tafeka Kefeny. La charité bien ordonnée commence par soi-même. John était Tofe, John était RFE. Amadi Johnny qui wolo fani wolo bala iji eribe. Amadi Johnny nigamo ki kaline eribe. Kutaula Amadi Johnny ki Diego se iba kanute. Asisi wula ya bani iba wana jama kuindu. This is my face, Madam Papi. I'm a DJ, but I guess what I'm fucking and I'm not concerned. Jama be fande, never did any dollar. Good in the party, Prince. I put you over a bar. Skinny see jolly. Yes, I'm a Sheri koko wele, tasaba jole wele, ngaraba musu abase, abase, tasaba nunu banyedon, sakoro nunu babedon, skinny nunu yemazo, ambe na ma plaisir dedon, ne faye kuga si kone kamono vaniada vida, baba mafumu ambalo yemalo vaniani nega, kola si juru abaya jumbi. I put you no no, jama no juru. Ah, shams, muazi nemu, duati nemu, nila inemu, nuntus nemu, vu nemu, il fu el nemu, baroni baga baro, la pomalu gamineru, koma jaba te kajaliya.
Kinem pasa.
En tout cas, nous, on aime ça. Et Aïcha et toi?
Ah oui, j'aime bien.
D'accord. Chanson sortie le 2 avril dernier.
Alors, nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous suivez le Club des Tamani, l'émission culture des studios Tamani.
Nous sommes ce soir, Aïcha, avec le docteur Baka Beni Keïta. Il est philosophe politique. L'insécurité au Mali a fortement impacté beaucoup d'aspects de la vie. Et si on parlait de la destruction des sites classés au patrimoine culturel?
Oui, depuis, je crois, 2012, à Tombouctou, et je crois à Djenné aussi, au nord du pays, il y a effectivement des sites classés au patrimoine culturel mondial, donc qui ont été effectivement saccagés par les groupes armés. Donc à la CPI.
Mais d'après vous, quel peut être le poids de ces actes-là, la portée de ces actes-là sur notre patrimoine de façon générale?
Non, mais ces actes-là quand même sont de nature à détruire complètement donc l'héritage culturel, donc à déstabiliser complètement les valeurs culturelles. Et donc si tout le monde se mettait en tout cas à saccager les sites, surtout classés au patrimoine. Donc, puisque le fait d'être classé aussi au patrimoine mondial, au patrimoine culturel mondial, donc je pense que ça donne une certaine visibilité également internationale à notre pays. Et donc, si ces sites sont détruits, et donc, il y va aussi de l'image de notre pays et donc de notre culture également.
Absolument.
Et donc nous devons tout faire pour les préserver, pour les conserver soigneusement. Les générations antérieures les ont entretenus pour nous, donc c'est aussi un devoir pour nous autres donc de travailler de manière à les transmettre aux générations futures.
Alors M. Keïta, n'est-ce pas que cette insécurité met à mal la promotion du tourisme et d'autres activités similaires?
Oui, l'insécurité paralyse toutes les activités. Vous savez, le premier besoin des hommes, c'est la sécurité. Et si les hommes ne sont pas en sécurité, rien d'autre n'est possible, et de façon générale. Donc, en particulier le tourisme. Donc, il ne peut pas avoir de tourisme, effectivement, dans une zone, dans un pays en proie de l'insécurité. Vous savez très bien, moi j'ai des amis qui sont dans ce domaine. Et vous prenez des régions comme Mopti, des régions comme Tombouctou et autres, donc qui gagnaient beaucoup en tout cas à travers le tourisme. Mais depuis 2012 jusqu'à maintenant, à cause de l'insécurité, je pense que beaucoup de gens, de jeunes, ont perdu leur travail. Donc évidemment, perdre son travail, c'est aussi perdre son revenu. Et donc, c'est également de plonger aussi dans la pauvreté. Autrement dit, ça aggrave la pauvreté également dans le pays, le fait que le tourisme n'existe pas. Mais c'est quand même aussi un coup dur à notre culture, parce que c'est aussi les touristes qui permettent aussi d'aller, en tout cas, louer la culture de notre pays, du pays visité, du pays d'accueil dans les pays d'origine et même peut-être dans d'autres pays. Donc si cette activité est à mal aujourd'hui à cause de l'insécurité, c'est vraiment un dommage.
Vous l'avez évoqué un moment, peut-on craindre, vous l'avez dit, quand les populations se déplacent, il y a forcément des pertes de valeurs. Mais est-ce qu'aujourd'hui, au Mali, on peut craindre ce fléau-là? Par exemple, les Maliens qui se déplacent vers le Burkina, c'est vrai que nous sommes des pays voisins, mais on se différencie d'une part par certaines pratiques culturelles.
Ouais.
Voilà, un peuple qui se retrouve au Burkina, est-ce qu'il ne va pas perdre ses repères? Un autre qui se retrouve au Niger, est-ce qu'on ne va pas craindre l'influence d'autres cultures sur la nôtre?
En même temps, je suis d'accord que l'insécurité entraînant effectivement le déplacement des populations joue négativement effectivement sur les valeurs culturelles. Donc, ce qui amène aux populations, effectivement, de perdre une part. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la seule constance de la vie, c'est le changement. Donc, la culture elle-même, de façon générale, est soumise également à la loi du changement. Donc, il y a l'insécurité aussi ou pas, donc les cultures se modifient à l'aune du temps. Donc, oui, il y a une stupidité, excusez-moi, aujourd'hui, qu'on entend fréquemment, qui est répandue, et qui consiste à dire qu'il faut retourner aussi
aux
valeurs traditionnelles. À vrai dire, la tradition en tant que si je vais sur la base du fait que rien n'échappe au mouvement, donc ça veut dire que le débat de l'authenticité, c'est un faux débat. et parce qu'il n'y a pas d'authenticité. Il y a peut-être une originalité. Donc chaque génération accueille effectivement l'héritage, mais qu'elle veuille ou pas, donc elle est obligée effectivement de transformer et d'ajouter effectivement sa marque effectivement à ce qu'elle reçoit des anciens.
D'accord. Mais à mon humble avis, hein, est-ce que ce ne serait pas aussi une invitation à aller puiser dans ce qui était bon, les pratiques potables, on va dire, entre guillemets, de notre culture ?
Non, je suis d'accord. Le fait d'inciter effectivement les gens à aller à la racine, effectivement, on pourrait puiser l'idée que c'est pour les inciter effectivement à les s'inspirer effectivement de ce qui existait à partir de l'héritage et de travailler, parce qu'on ne pourrait pas non plus travailler à partir du vide. Et donc pour travailler, pour construire l'originalité, donc il faut partir de l'héritage. Et donc nous sommes dans ce cas, si nous devons partir de l'héritage, je l'avais déjà dit, que nous sommes obligés effectivement de conserver cet héritage pour les générations antérieures, les générations à venir.
Merci une fois de plus, docteur Keïta, de vous être prêté au jeu. Merci pour toutes ces réponses. Vous allez rester avec nous car l'émission n'est pas encore terminée.
Oui, Aïcha, nous prenons à présent le chemin des stades.
Pour nous détailler l'actualité sportive, nous pouvons compter ce soir sur Oumar Ouégalo. Bonsoir Ouégalo.
Oui, bonsoir Aïcha, bonsoir Lala, bonsoir Keïta.
Bonsoir.
Alors, qu'avons-nous au menu de l'actualité sportive ce soir Ouégalo?
Quart de finale de la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans, Ligue des champions africains de basketball et la 11e édition du Tour cycliste international du Mali.
Nous commençons par les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans, Maroc 2025.
Oui, les Aiglonais affrontent ce soir leurs homologues de la Tunisie, c'est à partir de 19h au stade Ben Mohamed de Maroc. En cas de victoire, les jeunes maliennes vont affronter le Burkina Faso.
Alors, quel était le parcours des Aiglonais dans la phase du groupe?
Le Mali a fait deux victoires aux dépens de l'Angola battu 2-1 et de la Centrafrique dominée 2-0. Deux victoires qualifiées déjà le Mali pour les quarts de finale et le prochain mondial de la catégorie prévu au Qatar en novembre. Les cadets maliens ont aussi subi un revers contre la Côte d'Ivoire par le score de 4-2.
Le Mali habitué de cette compétition ne doit pas avoir des difficultés ce soir, Ouégalo, ou bien je me trompe?
Oui, Aïssa, le Mali est le seul qui a remporté deux fois consécutives la Coupe d'Afrique de moins de 17 ans, mais ce soir, le Mali sera face à la Tunisie. Faisons très attention, ce n'est pas une équipe à sous-estimer.
Alors, autre actualité sportive, Ligue des champions africains de basketball, le stade malien de Bamako est en difficulté, Ouégalo.
Effectivement, Lala, 4 sorties, 4 défaites en entrée en les Blancs de Bamako se sont inclinés face au River Hoopers du Nigeria sur le score de 80-60. En deuxième journée, les hommes de Boubacar Kanouté n'y arrivent toujours pas. Ils ont été dominés par El Ittihad de l'Égypte sur le score de 72-69. En troisième journée, les Blancs de Bamako ont été dominés par Fils de Rabat sur le score de 72-92.
Parlons à présent du skilisme. La 11e édition du Tour skiliste international du Mali débutera ce dimanche 13 avril 2025.
Organisée par la Fédération malienne de cyclisme, la compétition va se dérouler du 13 au 20 avril sur une distance de 1000 km. La course débutera à partir de Sikasso le 13 avril pour s'achever à Bamako le 20 avril.
Quel est donc l'itinéraire des cyclistes, Ouégalo?
Là, les cyclistes passeront par Niena, Komantou, Bougouni, Fana, Ségou, Koulikoro pour arriver à Bamako le 20 avril 2025. Et c'est tout pour cette actualité sportive. J'espère qu'ils seraient à la place quand même.
Ils ont du chemin à faire quand même. Hein.
Sikasso,
Bamako, c'est pas...
C'est pas du tout
c'est
facile.
C'est pas du jeu. Hein. D'accord, on leur souhaite bonne chance. Merci à toi également pour l'actualité sportive.
Auditeurs.
Nous allons t'accompagner en musique à Ouégalo et le choix s'est porté sur Kader Tarhanin et Mona Dedani qui nous chante Zénasra.
Thank you.
2024, date de sortie de ce tube, une œuvre d'art de l'enfant de Kidal, Kader Tarhanine, en duo avec Mouna de Denis.
Oui, Lala, nous recevons à présent Idrissa Sako pour la revue de la presse. En Bamanankan.
La revue de la presse.
Idrissa Sako, nous là.
Mba, nous là.
Et dans ces Bamanankan, nous avons fait un peu.
Mba, j'étais. Bi, nous avons fait un bel adjelé, mais nous avons fait un peu de Odeye, Gela, Min, Donendo, Mali, Ani, Algérie. Nous avons fait un 17 bel adjelé, Idadou, Akola. Sabu, Mali, Sorasou, Kapangurundo, Ode, Jensena, Kabon, Kabi, Algérie, Kauf, Ukafola. Nous avons fait un bel adjelé, avril kalo tile duru waati min anu gouvernement mali gouvernement ali ak communiquer ke communiquer min ko nana aya jira ka fo aka pankuru im boni ka bi asabu bora algérie de la okara mars kalo tile bisaban kele sou ka dugue avril kalo tile gale la tinza waten gouvernement ya jira fana ka fo abina ka ni so ga sebe la do algérie kama ko sabu ke bingani ola femme kuna fondi sebe les eco ani l'indépendant ulu ya jira ka sebe ko nana min bora avril kalo tile wolom vla ko mali aya ka ni so ga sebenta ka nyeshi algérie ma kosabu ke bingani uka fola malika panguri abina abinjo mina u aber kilometre kontonit la hakebo algérie frontière la wuro dugu afan fe mali du kolo sa fe o de bajira ka fo ina fo mo hoyajira chuam na ko yebulu madairo de abulu ka ajira ka fo algérie wale minke bingani wale dudu 22 septembre ali ajira ka fo mali so rasu ajira ka fo ulut le kle u maddo algérie ka daga konana journal ni ajira fona ka fo se efemnye kele bolo nyema baye no general Omar Jarahi o yajira ka fo malika pankuri akumbe ka barake ka kolosili deke mali adugo kolo safe o kumai o de bajira ka fo ko algérien min fo ka fo ko mali aka pankuri dona aka daga ko nana côté tien kada ni wale nka feminye waka ambassadeur mbe maliko nuka la sidi mali nyemo yo uwele ka nyinga adalakana ukuma yi osorla quotidien national feno le sori aka boli mingera afrika lutli shigina ko awele kun kunye femye ka jira ka fo mali anyemo ani mali do umiso gwale ndo wa udimino ndo fona ko sabuke bara min kele nyeta ani teriate nyanta chugo shila o fona temeno ka boy glia min do na mali ani algerice ayes mo fona yusendo akola republicain ka fola sabuko jamana flami farano mali ka ayes ko nana lu fona yu uka la sigidon wele kabo Algérie jamana kononana wala sa Algérie fana aya jira ka foko galo mindara alela chiente atijo akoro fana atijo bamako ka kuma koro atijo ayisi ka kuma koro afana yaka lasigidon wele kaboni jamana num bela jelena kalabaga ka sanfesera datu independent aya jira ka boli minkera avril kalout le chegin ko ningoni wale kuraye mi nabina furku furku sinsin Algérie ani Sahel jamana uni nyanche o min indicateur de renouveau ça ale ko nya jira ka fo ni ko embela jele mbaka ke ka ban min inu africaine ale makuma nations unies re ofuna makuma ni inu africaine makuma c'est da ko ni ale ajira ka fo ni wale mi a chekani fan fla bela jele kusi ku tike ni nyoma wasa uka pan ni ko impuna independent ya jira ka fo wati mina ni jema be ki itloti ni ko ina c'est da ko ni ale wulika joke avril kalot le konton ka ni mali ni algérie fe uka sigi ku ubulo di nyoma femini info matin ali ajira ka fo jamana dun ule wulika joke kuka kanga sorasu ku usongro madondo ni ko ina kusube sabu uye wulika jo bake algérie la sigi denso dala o mini republique sa ali ajira ka fo politique mo fo na bela jelenye algérie kan wole ku lagushi kuka demenjira mali sorasu la
Idrissa Sako kuna fundila da seramin fana ma oye amadou bagayogo alika banie o fana fora kosobe
o kono kera himimi ko badi ye jamana ko nana wa kuna fondi 7 chama ishoni nda aka femini amadou bagayogo ne aleni no ala ye noro dwan kabo aka yelima ani afrumuso mariam dumbia uye jamana jonjon korota jien fantan nani bela jelena on ndoina sa amadou koni ale fatura ka sito sambi wolom la hakela o de la indicateur du renouveau ya jira kafo amadou aye mariam to falaye awa karo kafo akwa dungili bami yere no be a ira kafo ko bamako karudo nye nisoja donye furu dondo ko ni ndoin okera nisogo ya donye eba bamako fantan nani bela jelena amadou bagayo ko malidon ani jien fantan nani bela jelen be ad kashi ko sabu ke ata atali oye le sor yere ka sebeni aya jira fona kafo maram ni amadou ufla uye mali trobo uye ludura nye ka tue ludura mu bali uka barake akechola ka jeff selgenani bela jelela donge kula nisodia dukolo fantanani bela jelena inafo lesori ofo chukamina oko saya ale de kara savie ka amadou ni mariam faraka bonyona ni independent ka kumaye ayajira ka fo aka dongili minaba foko karo kari oye selide jamana kono maliko na noye en furusiru doye ko ngani ndoye bela jele farala nyanga ka kesa ngasigi doye amadou ka talila
aywa amedo oke alaka badabada dalino royaye ananga fure u bela jeli
ami
abala dorate
blewa
ami foko sobe
aywa
kambe wati wala
na la sona nous voilà arrivés presque au terme de cette émission mais la parole revient de droit à l'invité pour ses propos conclusifs monsieur Keita qu'est-ce que vous pouvez dire pour conclure ce débat
c'est pour vous remercier effectivement de m'avoir invité remercier l'ensemble de vos collaborateurs et inviter les populations maliennes, les autorités maliennes, les autorités à mettre en œuvre pour que la sécurité revienne vite, afin de préserver en tout cas notre héritage culturel, et aux populations effectivement de prendre soin et de le fortifier de manière que les générations futures ne soient pas en manque.
Ne sois pas déboussolé, j'ai envie de dire. Merci, merci beaucoup, monsieur Bakabini Keita. Je rappelle que vous êtes philosophe politique. Merci d'avoir effectué les déplacements. Et à vous, fidèles auditeurs, merci de nous avoir suivis. Nous avons parlé de l'impact de l'insécurité sur la transmission des valeurs culturelles. Si vous n'avez pas suivi l'intégralité de ce numéro, sachez qu'il est disponible sur toutes les plateformes digitales des studios Tamani, à la coordination Sekou Gadjigo, présentation Aïssata Diarra et Lala Diarra Touré. La technique a été assurée par main de maître par Ibrahim Sanogo. Cette pensée, avant de rendre l'antenne, l'on atteint la sagesse le jour où il n'y aura plus d'obscurité dans notre cœur, le jour où l'on pourra préserver la dignité de l'autre. Prenez soin de vous et des autres. Bonne fin de semaine à tous.